On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase. 100% parler tout l'été.
C'est notre heure où on sort un peu de l'actualité de tous les jours. Mathias, on se permet de se gâter avec des invités spéciaux dans le 13 à 14, dans On en jase version estivale. Jeff va revenir la semaine prochaine, mais d'ici là, toi et moi, on continue notre, j'appelle ça, comment dire, notre putsch à Boulevard 101, parce qu'on est partout. On est là du matin au soir. Toi, ces temps-ci, on te voit aussi dans le retour. On t'entend, en fait, de
notre
réagir.
Notre semaine de roche.
Oui.
Ça roule.
Exactement. Puis on a bien du fun avec vous. 88-971-1021, si vous voulez commenter le prochain entretien, parce que ça risque d'être difficile, mais on va le faire avec un intervenant que vous connaissez, que vous aimez, Maître Métal. Avant tout, Mathias, comment ça se passe sur les réseaux routiers?
Un peu plus tôt, on avait des difficultés. En général, j'ai pas le choix de dire que pour l'instant, ça se passe bien un peu partout. Une petite affaire Laurentienne-Sud pour accéder à la capitale. Même chose 20 Ouest entre Taniata et Chemin des Îles, mais sinon, ça circule très bien.
En manchette, tu avais quelque chose à nous signaler parce que, bon, on apprenait entre autres que le gouvernement Carney annonçait la fin de la taxe Netflix.
Oui, en gros, c'est le 5 % de taxe du côté du gouvernement Carney, plus précisément les redevances de base qu'on voulait accorder à Netflix et Prime Video. Pour remonter en mai, le CRTC qui voulait augmenter ces redevances à 15 %. On leur avait dit non parce qu'on était en pleine négociation avec les États-Unis. De ce qu'on comprend encore une fois, la raison pourquoi on retire tout simplement ce 5 %-là de redevances qu'on demandait à Netflix et Prime Video pour financer notre culture canadienne en général, c'est pour améliorer les négociations avec les États-Unis. Fait que c'est une petite concession qu'on leur donne de ce côté-là.
Crave en fait énormément aussi là, pour tout ce qui est québécois. Là, on dirait qu'on a pris d'assaut la plateforme dans les dernières années, mais tu as bien du contenu sur Crave. Là.
Ah oui, 100 % qui font un gros travail. Les douanes américaines qui ont repris leur activité à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Leur activité avait été suspendue en raison de drôles d'odeurs, d'une forte odeur de vernis qui émanait d'une zone de construction. On avait dû évacuer des personnes, certaines personnes qui avaient ressenti des malaises. Certains vols à destination des États-Unis qui sont donc annulés. Donc, si jamais vous dirigez vers l'aéroport actuellement puis vous vous dirigez vers les États-Unis, surveillez tout ça.
Oui, mais ça reprenait tranquillement. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Mais oui, surveillez surtout si vous êtes aux abords de prendre la 40 ou la 20 pour aller à Montréal et ensuite prendre un vol.
Et je termine avec le fédéral qui a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 milliards de dollars pour renouveler le parc de locomotives longue distance via rail. C'est 45 locomotives de Stadler, un constructeur russe, qui seront acquises. Le gouvernement du Canada qui donnera aussi 357 millions de dollars pour permettre à Via Rail de construire une nouvelle installation d'assemblage ici à Montréal.
C'est l'heure. L'heure du jugement. Voici le maître du métal.
Et là, il est tout souriant, même si ça fait peur, peut-être, cette présentation-là. Puis même au look, c'en est un qui est funky. Didier Sanson, maître métal, qui est en studio avec nous, avocat de la défense dans la ville de Québec. Mais avoue, là, ton style, il a fait jaser beaucoup, là. Didier Sanson, c'est pas petite toge et bas blancs, là.
Ça dépend. Bonjour à tout le monde. Ça dépend. Des fois, j'ai des bas blancs. Ça dépend ce qu'il y a sur les bas. Mais mon look fait jaser beaucoup récemment, d'ailleurs.
C'est-tu une carapace pour être avocat de la défense, ce look-là?
La carapace à la longueur se perce. Non, j'ai vraiment la peau en cuir.
Ben nous, on fait appel à tes services, Maître Métal, parce qu'il y a des cas quand même importants dans l'actualité. On veut comprendre, on veut éclairer certains points aussi. D'abord, on va commencer avec celui des derniers 24 heures. Là. C'est toujours un peu poignant de voir qu'une chicane de voisins peut se terminer en meurtre. Cette fois-ci, c'est un double meurtre et ce sont des Québécois à qui on a enlevé la vie aux États-Unis, dans les Caraïbes, en fait. Et c'est deux Américains qui sont coupables des meurtres de Daniel Langlois et de Dominique Marchand.
Exactement. Là, j'ai lu un peu là, ce que tu m'as envoyé à ce niveau-là. J'ai fait des petites recherches. Donc, l'île Dominique, c'est grand comme l'île de Montréal plus la moitié de l'île de Montréal. C'est 750 km². Il y a entre 66 selon la Banque mondiale, puis 71 000 selon le gouvernement de l'île Dominique de personnes, soit de population. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, sont 100 000.
Sur un grand territoire, quand
bon,
même.
Bon, là, t'as vu, moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire-là, grosso modo, il y a deux voisins qui sont là, ça a l'air d'être des gens assez richissimes. Les gens du Québec sont dans l'hôtellerie, ceux qui ont été assassinés, sont là depuis 97.
Ils ont fait leur argent dans d'autres domaines, mais effectivement, ils ont pris les finances, puis se sont dit, on s'en va faire un genre d'hôtel éco-responsable là-bas.
Exact. Eux, ils étaient dans les effets spéciaux, le cinéma, je pense, au Québec. Donc, des gens nantis. Sauf que la chicane, souvent, on voit ça, puis j'en ai eu récemment là, à Lévis, chicane de voisins, droit de passage. Puis non, t'es chez nous, tu proches chez nous, t'as pas le droit. Puis là, ça échauffe les esprits. Que ça s'en rende là, y a-tu d'autres raisons? Moi, ce qui m'a plus frappé, c'est que les journalistes ont rapporté comme c'est écrit, une forme d'ordonnance de non-publication complète du procès.
OK, puis ça attire ton attention dans ce dossier-là où les corps des deux Québécois ont été retrouvés dans leur véhicule calciné, c'est en décembre 2023. Pourquoi ça attire ton attention d'avoir une ordonnance de non-publication complète?
Bon, quand je le regarde à travers notre système à nous, c'est que les débats sont publics. C'est dans la charte, le débat devant la cour est public. Puis l'exception, c'est qu'il y a des choses qui sont soit à huis clos, soit avec des ordonnances de non-diffusion, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la salle entendent, mais tu peux pas en parler. Fait la façon que c'était rapporté, j'ai été un peu plus loin dans mes recherches, puis c'est assez nébuleux. Ce qu'on semble dire, c'est qu'il y a des éléments du procès qui auraient été... qui ne pouvaient pas être diffusés. Fait que moi, j'ai fait le parallèle. J'ai dit, bon, si t'es dans un dossier de meurtre, il y a 9 jurés là, dans leur cas. T'es dans une population comme Rimouski, qui est la grandeur de ton pays. Puis t'es dans une cause qui a une attention mondiale. Ce qui semblait... Là-dedans, c'est pour protéger le procès, dans le sens qu'il y a des affaires pour ne pas influencer le jury, etc., etc. Ça semblait...
Tu peux sortir, se promener, puis là, commencer à jaser avec du monde.
Ben, c'est ça, parce que de refaire un jury avec une affaire comme ça, s'il y a un procès qui avorte, là, avec gros comme Montréal, avec gros comme Rimouski dans Montréal, ennemi, ben là, tu peux avoir des problèmes de te retrouver ou de te reconstituer un jury s'il y a un avortement de procès. Il y a peut-être des informations sensibles, parce que ça a déjà été vu qu'il y avait des éléments dans des procès au Canada qui ont été occultés, si on veut, pour des raisons que le tribunal décide, qui sont des raisons qui sont fondées légalement par le juge. Il y a un procès que je sais qui est secret, qui est sorti récemment, je pense, c'est l'an passé, où il y avait un informateur de police qui subissait un procès. Puis tout le monde a découvert ça après, c'est-à-dire que ça a été un procès qui a été complètement occulté. Ça a levé beaucoup de questionnements par rapport à ça au Canada, à savoir la transparence, l'apparence de justice veut que les procès soient publics. Puis les journalistes comme tels sont très actifs sur ce flanc-là pour pouvoir informer le public.
Quand tu regardes ça, tu vois que les deux Américains sont coupables de meurtre. Sur des Québécois, tu vois-tu des différences dans le système qui pourraient faire en sorte que les proches de Daniel Langlois puis de Dominique Marchand n'aient pas justice envers eux ou soient pas capables d'assister au procès ou n'aient pas la peine qu'ils voudraient pour leur sentiment de perte?
Bien, c'est... Tu sais, on regarde toujours les choses qui se passent dans un autre pays avec ce qu'on appelle la vision ethnocentrique, c'est-à-dire qu'avec nos connaissances, notre expérience, comment on est élevé, comment notre esprit est fabriqué quand on regarde une autre situation. Fait que c'est sûr que les Québécois, ici, on est habitués à savoir il y a quelqu'un qui va faire une plainte, bien, tout le monde va être à court, puis on va faire le procès, puis c'est vrai, c'est pas vrai. Mais de la même façon qu'il y a des familles, des victimes qui vont être là, bien, ils veulent savoir ce qui s'est passé. C'est notre fils, c'est notre fille, c'est notre mère, c'est notre frère, notre mononcle qui a été assassiné. On veut le savoir, puis au Québec, bien, quand on a la justice, les gens rentrent dans salle. Fait que c'est sûr et certain que là, ça peut causer certains problèmes. Puis surtout que ces deux personnes, je sais pas s'ils étaient naturalisés de l'île Dominique, les Québécois, ça le dit pas. Puis les Américains, mais ça reste que c'est des gens de d'autres pays qui se trouvent dans un trial dans un autre pays.
Puis ça frappe l'imaginaire de dire, hey, c'est une mort qui est violente, là. Ah, calcinée dans un véhicule.
Bien, s'il y a eu des coups de feu, puis après, ils ont mis le feu. Fait que ça ressemble à une approche un peu type bandit, on pourrait dire.
On essaie de camoufler un peu.
Exact, ou de faire disparaître les empreintes, l'ADN, etc., etc.
Et ça semble être une chicane de voisins. On a très peu de détails, mais une chicane de voisins qui paraissait un peu anodine là, au début. Là.
Droit de passage.
Ouais, c'est ça, droit de passage et tout. C'est des choses qu'on voit ici aussi au Québec, des fois, des chicanes de voisins qui dégénèrent complètement.
Ben oui, on a eu une récemment à Montréal où un monsieur a tiré sur sa voisine à coup de 12. Puis il a été représenté par Maître Chevalier, me semble. Puis en tout cas, il a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il s'en est éclairé parce qu'il avait un excellent avocat, on peut le dire. Mais oui, ça arrive. Les chicanes de voisins, là, ça peut monter d'un ton préoccupant. Je te dis préoccupant parce que les policiers, souvent, sont dans une zone grise. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est une chicane civile, on s'en mêle pas. Mais quand les menaces commencent, ouais, là, ça il m'a fait des. Là, ça monte, là, la police débarque, mais le problème civil n'est pas réglé. Fait qu'il y a des conditions, il y a des accusations, ça traîne, ils n'ont pas le droit de se parler.
Ils vivent à côté pareil.
Puis ils vivent à un côté de l'autre. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu des chicanes de voisins dans le même bloc appartement qui vivent sur le même palier.
Puis qu'il n'y a rien qui change, puis ils essaient de se faire
suivre. Des voies de fait, menaces, harcèlement, puis écoute, là, si tu me parles, il y a un bruit, et tu rencontres la personne dans le couloir, tu appelles la police, il y a un bruit, l'autre part avec les menottes. Fait que, tu sais, la police est tout le temps rendue dans le bloc. Ben. C'est ça.
Il dit, la personne qui a tiré avec un 12 sur son voisin du côté de Montréal, il s'en est sorti parce qu'il y a un excellent avocat. Hey, nous, quand on entend ça, le public, on est comme, OK, on comprend que tout le monde a droit à sa défense et voilà pourquoi les avocats de la défense existent. Puis pour plusieurs mœurs, des fois, on se dit, ouf, ça me gratte d'un côte, ça, que quelqu'un s'en sorte parce qu'il a été bien défendu, parce que son avocat est extraordinaire dans l'exercice du droit. C'est sûr que tu entends ça des fois, comme, comment tu fais pour être avocat de la défense? T'es capable, toi, de représenter des gens qui font des crimes?
Ben, c'est exact. Comme je te dirais, ça prend une personnalité qui fonctionne avec le rôle que t'as comme avocat de la défense. Tu peux pas regarder les choses à travers un filtre moral qui va être soit judéo-chrétien ou qui va être tout simplement les civilités ou la morale, tu sais, ou que tu es un chevalier de la vertu. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il faut être neutre, faut être froid, faut être... comment je te dirais, très cartésien, rationnel, avec des faits. Puis il y a un système qui fonctionne. Tu sais, quand on dit « nul n'est censé ignorer la loi », ben, la plupart des gens le savent pas, mais c'est la loi qui s'applique. Puis la loi, c'est très informel ou incorporel quand t'en parles, mais ça s'applique. Puis il y a un système dans lequel, si le dossier qui est fait, même s'il y a quelqu'un qui est mort, est pas fait comme faut, tu peux t'enclairer.
C'est fascinant. C'est de la loi est écrite, elle s'applique, mais elle s'interprète aussi. Puis ça, on pourrait jaser une heure là-dessus. Maître Métal, Didier Sanson, avocat de la défense. Deuxième sujet qu'on voulait voir avec toi aujourd'hui. Il est en cours et c'est cette chasse à l'homme pour retrouver Philippe Benoit. La SQ qui veut des images des caméras de chasse pour le retrouver. Certains disaient, ben là, il est-tu décédé ou quoi que ce soit? C'est le principal suspect dans le meurtre de son propre fils. Problèmes de santé mentale aussi qui sont évoqués. Okay. Mathias, ça me fait un signe.
C'est même maintenant, il est formellement accusé de meurtre au premier degré sur son fils, justement, Ryan Deschenaux, 16 ans. Donc, il y a un mandat d'arrestation pour meurtre avec préméditation qui pèse sur Philippe Benoit actuellement.
On cherche cet homme-là de 41 ans. Tout le monde, en fait, qui peuvent peut-être l'apercevoir et sont invités à ne pas entrer en contact avec lui, mais d'appeler les policiers. Il pourrait être perturbé, posséder une arme blanche. Bon. C'est un gros dossier, mais là-dedans, nous, ce qui attirait notre attention, c'est que dans les derniers jours, il y a plein d'articles sur « le fils ne voulait pas voir son père ». Le fils était inquiet d'aller chez son père. La garde avait été retirée, mais là, s'il prenait sa médication, il pouvait voir son enfant. On se dit « voyons, comment on se ramasse avec autant d'alertes rouges, puis quand même un gars qui s'en va chez ce père-là, qui souffre de schizophrénie, prend pas super bien sa médication et, selon les commentaires qu'on a des derniers jours, était désorganisé dans les dernières heures où son fils était encore vivant ».
Ben, il y a plusieurs explications possibles. Moi, j'en vois plusieurs. Depuis la pandémie, ce qu'on a remarqué, il y a eu des départs précipités à la retraite dans tous les secteurs, puis il y a beaucoup de jeunesse qui est arrivée sur le marché du travail. Donc, au niveau, en ce moment, de ce qui se passe depuis la pandémie, il y a 6 ans, le système se réorganise. Sauf que si ça fait 3 ans que tu es en première ligne, versus quelqu'un qui en fait 30 ans qui est là, tu n'as pas la même expérience. Donc, est-ce qu'il y a eu dans le système une problématique pour identifier, bien écoute, on a un cas en ce moment qui est alarmant.
Mais on
oui
parle
ou
de la
non.
Direction de la protection de la jeunesse, dans le
système policier,
sais,
moi, je ne sais pas qu'est-ce qui en est arrivé, sauf que ce que j'ai vu de l'article, il semble que le jeune est trouvé dans son lit, a été poignardé dans son lit. Donc, c'est ce que ça s'est fait pendant qu'il dormait. La personne a-tu eu accès? Comment il est rentré? Comme il y a une enquête en cours, bien évidemment, quand les avocats ne commentent pas les enquêtes en cours ou les causes pendantes, là, ben, la cause commence à être pendante. Il y a un mandat d'arrestation, donc ça commence. Mais en ce moment, moi, ce que je pense avec la santé mentale, il y a une recrudescence qu'on remarque. Moi, je travaille dans Saint-Roch à tous les jours. comment je te dirais, l'explosion de problématiques de santé mentale puis de désinstitutionnalisation qu'on a vu il y a des années et des années, bien, la résultante aujourd'hui, c'est qu'en première ligne, tu manques de ressources, tu manques d'expérience, tu peux peut-être pas l'identifier. Peut-être que tu penses que donner une pilule, c'est une recette magique, alors que tout le cognitivo-comportemental qui va aller avec l'acceptation de la maladie. Souvent, si tu regardes, on voit beaucoup de gens qui sont décompensés en matière de schizophrénie paranoïde, affective, ou qui ont des tendances avec des esprits schizotypiques, c'est-à-dire qu'ils pensent d'une certaine façon, puis quand ils se désorganisent, ben moi, j'ai remarqué que ceux qui avaient cette maladie-là vont être peut-être amenés à poser des crimes violents, qui vont avoir entendu quelque chose dans leur tête qui leur dit, ben il faut que tu agisses, il faut que tu agisses. On voit ça assez souvent. Dans son cas, lui, c'est d'une tristesse infinie. Ça, c'est certain. Puis les gens vont probablement frapper sur le système, comment ça se fait que. Tu sais, rappelle-toi de Pierre-Ny-Saint-Amand. On n'avait pas
l'homme qui l'autobus. Montait un autobus à Laval sur une garderie. Bon.
Puis ça, c'est ce que je vois comme réponse du législateur, c'est-à-dire de celui qui fait les lois récentes. C'est que lui, ça s'est arrivé, tu pouvais pas le voir. Même les voisins, ils écoutent, le gars-là a l'air bien correct, puis c'est une famille qui n'a pas l'air d'être sans histoire, blablabla. Puis là, il rentre dans la garderie. Mais là, il a été jugé non responsable, criminally insane en anglais, mais la non-responsabilité de troubles mentaux de l'article 16. Là, ils ont ajouté les délinquants au risque. Puis ça arrive toujours en aval. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en amont pour pas que ça arrive dans ta société? T'es rendu où à ta table au niveau là, du ministère de la Santé? On a eu un comptable, puis là, je sais plus trop c'est qui est rendu là. Mais à un moment donné, il va falloir se poser la question, comment va notre population par rapport à ça pour éviter ces tragédies-là en amont?
On travaille-tu assez avant que le problème arrive?
Ben moi, je peux pas te le dire parce que je suis pas dans ces milieux-là. Puis
la question.
C'est une question. Ou est-ce qu'on travaille comme il faut? Est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on est descendu dans la rue? Est-ce que les gens, tu sais, je veux dire, tu me parles d'un travail d'avocat de la défense. Combien qu'il y en a qui vont aller se virer dans Saint-Roch à côté d'une piquerie, voir comment c'est fait? Pas beaucoup. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. T'sais, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il faut aller voir un peu sur le terrain comment ça marche, comment ça se passe, rencontrer les gens, puis de
se réadapter, puis de refaire un peu le cheminement qu'on offre actuellement à des gens qui peuvent se désorganiser. Puis justement, s'il y a des signaux d'alarme, être capable de les voir avec des gens qui font leur travail depuis plusieurs années, qui sont capables de dire « manipulation ici, voici signal d'alarme. » Non, je pense pas que cet enfant-là devrait être sous la garde d'un parent. Puis ça, on extrapole, on sort du cas.
Puis ça prend quelque chose. J'en ai fait un récemment, un procès devant jury, où est-ce que c'était l'aptitude de l'accusé qui est en jeu. Puis si le travail du psychiatre est colossal, de suivre une personne qui est incarcérée, puis c'est des rencontres, puis il y en a eu, du travail. Puis le rapport, il était épais, puis il y a eu des rencontres. Par contre, quelqu'un qui va aller voir dans un CLSC ou dans une ressource, il y a des ressources qui sont subventionnées ou qui sont communautaires, ces gens-là sont des filets de sécurité de première ligne dans la rue, mais ça déborde. Puis en même temps, comme il y a l'accès à la santé mentale, c'est tellement long d'être là-dessus. Fait qu'au niveau de l'intervention psychiatrique, d'urgence, on a défait la preuve qu'à Saint-Ville, il y a 10-15 ans, il y a 10 ans que j'ai fait ça, bien, il y a un psychiatre qui venait juste la fin de semaine. Sauf que le problème perdure à chaque minute.
Oui, puis même s'envenime parfois quand on est désorganisé puis qu'on a besoin
exact.
De soins tout de suite.
C'est pas tout le monde qui est capable de dealer avec quelqu'un qui est décompensé, qui est agressif non plus.
Il y a une journée de nos journées de radio à Mathias et moi où on s'est nous-mêmes désorganisés quand il y a une nouvelle qui est entrée. On était sans connaissance. Mais sans connaissance, c'est la façon très, très correcte de le dire. Et c'est quand la nouvelle sur le pédophile André Fèvre est arrivée dans notre boîte de nouvelles, comme quoi il avait été arrêté à Québec. On est le 14 juillet dernier, alors c'est hier, si on peut se comprendre. On est toujours bien le 29 juillet, où on apprenait que ce pédophile notoire-là, qui était sorti de prison en 2024, puis là, encore là, on peut se poser la question pourquoi il avait été sorti de prison en 2024, a été arrêté dans notre belle ville pour avoir brisé ses conditions. Il a 78 ans, il a été arrêté d'abord en 2016 parce que lui, c'était la grande tête du club social des pédophiles qui avait été démasqué par la police provinciale. Et pendant une dizaine d'années, il alimentait un serveur sécurisé. Il avait pensé à tout, lui, pour permettre des échanges de matériel entre plusieurs pédophiles. pédophiles de partout dans le monde. Mr. Worldwide en pédophilie. C'est vraiment extraordinaire. C'est une belle jambe, un beau CV. Et en 2016, c'était l'opération Malaise, très bien choisie, où il y a une douzaine d'hommes qui ont été arrêtés pour avoir participé à ce stratagème-là. André Fèvre, on pensait que c'était fini. On était en cours. C'était derrière les barreaux. Ben non, il est ressorti il y a quelques années. Et c'était 12 ans de pénitencier qui étaient tombés sous sa tête. Il y a 2 ans, la commission de libération conditionnelle a accordé cette libération d'office après le tiers de sa peine, avec pas moins de 25 conditions à respecter. Fait qu'on s'est dit, ben, il y en a des conditions, il va les respecter. Ben non, il les a pas respectées. Fait que mandat d'arrestation, placé sous surveillance, puis on apprenait dans l'actualité qu'il avait brisé ses conditions. T'es-tu aussi sans connaissance que nous? Je comprends.
Bon.
Comment ça peut arriver?
Ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec Eustachio Galaise, c'est qu'il était accusé d'avoir tué sa femme, sa conjointe, puis là, certains avaient permis qu'il puisse aller satisfaire ses besoins auprès de certaines péripatéticiennes, puis t'as vu ce qui est arrivé? Écoute, André Fèvre nous dit qu'il est, il a 78 ans, il a passé 40 ans dans un scout, tu vois le genre. Il a abusé 3 personnes là-dedans. Il s'organise. Moi, il y a une avocate qui me parlait, ça m'a dégoûté parce qu'elle a travaillé là-dedans. Quand il arrive, comme tu appelles, au tiers, parce qu'au 2/3, une peine fédérale, tu sors d'office. C'est-à-dire, tu as fait ton 2/3, ils tiennent plus. Souvent, ils vont lever un mandat de paix pour essayer de te reprendre parce que la victime a peur quand tu sors. Quand tu es au tiers, tu as des conditions, puis tu appartiens jusqu'au 3/3. Dans son cas, à lui, probablement, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais lui avait un rôle de grand gourou de la pédophilie. C'est une orientation sexuelle. Puis regarde, c'est épouvantable. Puis eux, ils sont à Macasa. Puis après, ils sont dans des maisons de transition. Puis ils jasent ensemble. Comment qu'ils vont faire ça? Non, je vois ta réaction. On a tous la même réaction.
Moi, je suis zéro journaliste dans ce cas-là. Là, et je l'affirme haut et fort. Je suis complètement humaine. Et ça me dépasse.
Exact. Mais c'est pour ça que moi, je n'en représente pas. Toutes les crapules de ce monde, ben non. C'est sûr et certain. Bon, ça, je l'ai expliqué long en large. Ça va avec les valeurs et l'éthique que tu as comme praticien, comme avocat, dans tes valeurs d'avocat. Puis oui, tout le monde a le droit à une défense, mais c'est pas tout le monde que moi, je vais défendre. Tu comprends? Bon. Fait que ce cas-là, c'est un cas inexplicable, selon ce que je vois là. Puis surtout que le profil est arrêté. C'est-à-dire, on a un monsieur de 78 ans qui prône l'orientation sexuelle de la pédophilie, qui a été dans les scouts pendant 40 ans, qui a 3 victimes, puis qui est ramifié avec d'autres pédophiles. Il fait un truc, un serveur. Voyons.
Hey, il a créé une entreprise de pédophiles. C'est l'enfer. De même, là, c'est épouvantable. Puis il était jugé délinquant contrôlé.
En plus. Puis ça, c'est une ordonnance de surveillance de longue durée. C'est très, très, très serré. Fait que ça, c'est à n'y rien comprendre. Souvent, ce que moi j'appelle, c'est l'effet délétère de l'érosion de la chose. Ça, c'est un principe psychologique.
Là, il va falloir que tu nous précises.
Fais ça rapidement. Nez, ben, regarde, l'effet de l'éther, ça dit que tu sais d'endormir quelqu'un. Tu pars une grenouille dans de l'eau froide que tu bouilles, elle va mourir. Tu la lances dedans, elle va ressauter. Tu me suis? Elle va se brûler. Fait, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il arrive une situation qui est grave, 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 grave. La première semaine, après 3 semaines, bon, tu t'es adapté, c'est moins pire, c'est moins pire, puis moins pire. Ben, après, ce que lui, il avait pogné une sentence de quoi? 12 ans?
Oui.
Bon, fait que 12 ans, il est sorti après 4 ans. On a le temps de se faire oublier. On fait des beaux programmes en dedans. On peut admettre qu'on est ci, qu'on est ça, mais on est un manipulateur. On le sait pas. Fait que qu'est-ce qui arrive? Bon, on endort le monde. Puis tranquillement, bon, on ouvre, on tourne la clé. On va te faire confiance. T'as plein de trucs. Puis lui, c'est après son 12 ans, je pense que l'ordonnance part. Fait qu'ils ont dû se dire, pas fini, il va être mort.
Ouais, il a quand même dit que c'était une simple orientation sexuelle d'être attiré vers des enfants. Puis que le corps d'un enfant, c'est une œuvre d'art.
C'est la commission, même la commission des libérations conditionnelles du Canada. A affirmé ça.
Arrête, Mathias, t'as entendu, c'est épouvantable ce qu'on raconte.
Mais je sais.
Je sais.
Mais comment la commission des libérations conditionnelles du Canada peut dire cet homme-là n'a pas évolué, mais on
le
libère?
Ben, c'est parce que je viens de dire, souvent, les pédophiles sont les manipulateurs incroyables, sont aimés de tout le monde, sont fins de tout le monde, dont bien fin.
Oui, oui.
On voit les mêmes caractéristiques chez certains criminels qui. Tu sais, c'est comme une constante chez certaines personnes. Ils se promènent dans des caravanes, ils se promènent...
Avec un trench coat.
J'ai déjà fait une description à une personne que j'avais jamais vue, une dame qui se prétendait victime de j'ai dit, il était-tu habillé de même, dans un genre de même, il avait-tu les cheveux de même, on dirait que tu l'as vu. Parce que ça se ressemble,
Toi, tu vois des catégories de criminels, puis t'es capable de
profiler. Ben oui,
Ce gars-là, comment oublier tout ce qu'il a fait? En plus, ses propos, c'est sidérant, je m'en rappelais moi-même, Puis quand j'ai vu ça dans l'actualité, j'ai dit, c'est pas vrai. Comment tu peux être dans un système carcéral, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, que ce soit au palais de justice ou directement en prison ou l'agent de probation, puis te laisser endormir par quelqu'un qui te donne sur un plateau d'argent le fait qu'il est incorrigible?
Ben exact. Ça, c'est des faits de droit. Fait que moi, je te réponds en droit. Toi, tu me parles avec ton émotion d'égo qu'on a tous. Tu touches à des enfants. Moi, je te dis, en 98, quand on a fait le cours de charte, ou 99, c'est une des questions qu'on avait comme étudiant. À quand, là, parce qu'il y a la charte québécoise qui dit que tu peux pas discriminer sur l'orientation sexuelle. Puis nous, c'était à quand quelqu'un va se lever puis prétendre à ça? Dans un monde libéral où tout est accepté à ce temps, parce qu'il n'y a plus de code religieux, puis comme moi j'ai été élevé plus jeune, il y avait de la catéchèse, puis de la morale, tu sais, déjà là, tu divisais. Mais aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, que tout est possible, tout est accepté, comment cette affaire-là peut se passer? Ça, c'est une très grande question, puis débat de société. D'ailleurs, en Idaho, ils ont décidé que ceux qui avaient des crimes contre les enfants, puis qui étaient condamnés, qu'ils allaient les flinguer.
Ouais, ça s'appelle la peine de mort assez violente. Ça, on pourrait aussi se dire, ouais, non, on va pas là, ici, au Québec.
Ben, nous, c'est parce qu'on a des valeurs englobantes, je veux dire, de notre démocratie, de notre charte, de la façon dont le système pénal puis les sentences sont administrées. Mais chose est certaine, c'est que, comme on peut voir, il y a des gens, puis ça, les gens commencent à être tannés de tout ça. Parce que quand une personne est abusée ou agressée sexuellement dans son jeune âge, l'abuseur fabrique un problème que cette personne-là, premièrement, on voulait pas que ça, tu voulais pas que ça t'arrive, tu voulais pas te faire abuser, tu voulais pas vivre avec le traumatisme. Généralement, de ce qu'on a vu, comme encore là, en profilant certaines clientèles, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans certains types de crimes ou dans certaines habitudes toxicogènes qui vont avoir vécu ce genre d'abus-là.
Ça détruit une personne.
Ça détruit, ça vole une vie.
Puis c'est pour complètement, pour quelqu'un qui n'a rien demandé. Puis c'est ça qui me dérange aussi, dans le fait où André Fèvre s'était plaint d'avoir subi un lavage de cerveau de la part de ses intervenants en délinquance sexuelle. Puis il a réussi à ça. Tu sais, moi, Didier, maître métal, je sais là, qu'on peut endormir des gens, que la manipulation existe, qu'il y a des personnalités narcissiques même qui sont capables d'être enjôleurs à un point où des personnes qui on pense jamais qu'ils vont se faire avoir se font avoir, même dans le domaine amoureux. Mais revenons à lui.
Ben lui, moi je vois.
Revenons à lui, on a été capable de se laisser faire.
Ben qu'est-ce qui a pu être fait?
On est en danger au niveau du système judiciaire.
Ben sur certains aspects, c'est sûr et certain que là, l'émission qu'on fait aujourd'hui, si ça peut en réveiller une coupe, tant mieux. Mais moi je vais le mettre, admettons, en profilant. Je me dirais, bon, le monsieur a 78 ans, donc il est rentré là à peu près à 76, à 74. Fait qu'à 74 ans, il a réussi probablement à enfin aller chercher la sympathie de certaines personnes. Il a dû nier ses crimes. Le lavage de cerveau, ben non, j'ai pas de problème. C'est pas vrai, je suis condamné à tort. Admettons que c'est ça qu'il a fait. Ou s'il a admis d'avoir fait ça, bon, je le sais, je m'excuse, j'en peux plus. Mais c'est facile d'endormir quelqu'un dans l'empathie. De la même façon que toi, tu as la réaction dégoûtante par rapport à ça, de dégoût, de la même façon que tu es capable d'avoir une réaction inverse, d'empathie. Fait que le pédophile, lui, est capable de t'amener là. Parce que lui, il n'a pas tué personne. Il n'a pas poignardé personne. Il n'a pas fait mal à personne, selon lui.
Ouais, moi, des fois, dans certaines causes, je trouve que c'est un peu le même résultat.
Ben, c'est. Puis là, entre un pédophile puis quelqu'un qui a sorti une date Tinder qui a mal viré, tout le monde s'abrosse, puis la fille n'est pas contente parce qu'elle a ghosté puis a fait une plainte, par exemple, il y a un gap, là, en termes de crimes sexuels. Mais avec un gars comme M. André Fèvre, probablement qu'ils ont dû se dire, ben, regarde, il est strappé jusqu'à temps qu'il meure. Fait que ça sera correct, puis je sais pas si c'est une question de le faire vivre ou de pas le faire vivre au crochet de l'étendant, mais il a fait sa demande, ça passe au tiers. Il a été représenté par un spécialiste ou une spécialiste des pédophiles, je le sais pas au niveau carcéral. Y a-tu quelqu'un qui l'a échappé à quelque part, je le sais pas, mais c'est questionnable. C'est questionnable, surtout quand un rôle connu comme ça, étant un leader de la pédophilie. Un peu, là. On parle pas d'un leader d'un gang. Je veux dire, à quelque part, il y a une forme d'éthique dans un gang, là. Puis les crimes sexuels envers les enfants, il n'y a aucune éthique.
Maître Samson, Maître Métal, Didier Samson, avocat de la Défense, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
C'est l'heure du jugement.